Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la banque. Avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadouri. Sur la banque.
Hey, bonjour Zach.
Salut Sébastien.
Ça va bien?
Oui, toi?
Ouais, je voulais dire un gros merci à Claude et à Jérémy de m'avoir remplacé au dernier podcast. Sérieusement, c'était un super invité. On l'espère qu'il va se rendre aux Jeux Olympiques 2026, je pense qu'on y avait parlé.
Ouais, 2026. Puis, ben, soyez prêts parce qu'après ça, en 2026, on va probablement revoir Vincent Boily. On va tout essayer, en tout cas, peut-être qu'il est rendu là, il ne nous répondra plus, j'espère.
Yes, fait qu'on va commencer à parler de Boutin Performance.
Yes, Boutin Performance, 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or. Pour tout achat et installation de pièces d'auto, c'est le garage à aller. Notre belle photo officielle de Sébastien et Frank. Frank étant la famille de pension des Foreurs de Val-d'Or que nous avons reçue. Au podcast famille de pension de M. Nathan Barry et de Antoine Legacy pour ce qui est de la saison dernière, en tout cas. Quickfeet, quickfeet.com, code sur la bande 10. Quickfeet, c'est les demi-semelles qu'on met en dessous de les vraies semelles de patin. Ça élève votre pied, ça vous donne plus de rapidité, et agilité, tu vois. Rapidité, j'ai essayé de parler vite. Mais oui! Quickfeet, ça fonctionne pour plusieurs joueurs, pour certains joueurs de la Ligue nationale, on va dire comme ça. Mm-hmm. Avec le nombre qu'on a donné à des joueurs LHGMQ, ça va commencer à fonctionner dans LHGMQ aussi. On verra bien où est-ce que ça sera, cette belle compagnie-là.
Parfait, fait qu'on peut lancer la dernière mise au jeu de la saison 3, l'épisode 42.
Prochain entraîneur-chef de l'Olympique. Salut Alexis.
Salut boys.
Ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Yes.
Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il vous plaît?
Oui, sans problème. En fait, j'ai joué mon hockey dans la GMQ avec l'Océanique de Rimouski de 2011 à 2015. Mm-hmm. Par la suite, j'ai joué un petit peu pro. 2 ans aux États-Unis, entre la Ligue américaine, la East Coast, puis je me suis dirigé vers l'Europe. Après, j'ai été en Allemagne, au Danemark, en Slovaquie. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé à coacher. J'ai passé les 4 dernières saisons comme entraîneur adjoint avec l'Océanique de Rimouski. Puis là, ben, je suis maintenant entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau.
Parfait, merci. Fait qu'on va commencer ça avec autour du filet. Autour du filet. Autour du filet, Alexis, c'est là qu'on va parler des plus en précision des gros points que tu viens de dire. Là.
Parfait. Tu as commencé ta première saison avec Rimouski, tu as joué seulement 5 games. C'était sûrement un rappel que comment ça s'est passé tes premières 5 games avec l'Océanique.
Ouais, c'était mon année de 16 ans. Mm-hmm. Je jouais avec l'Albatros du Collège Notre-Dame pendant cette saison-là. On avait une bonne équipe. On s'était rendu. On avait perdu en finale contre le Lac Saint-Louis, là, qui avait dans le temps Mike Matheson, Jonathan Drouin, Anthony Duclair. Donc, il y avait une pas pire équipe. Puis c'est ça, là, j'avais été rappelé, j'avais commencé l'année avec l'Océanique. Là, on avait commencé les 2 premiers matchs à Lewiston. Mm-hmm. Puis par la suite, j'avais joué quelques matchs aussi dans le temps des fêtes.
C'était comment pour un joueur de 16 ans d'aller jouer aux États-Unis? Tu sais, c'était la dernière année, je pense, de Lewiston.
Oui, exact. C'était nouveau. Là. C'est sûr que c'était la première fois que j'allais là-bas. Puis c'était quand même intéressant. Il y avait quand même beaucoup de monde dans les estrades. C'était plaisant. Mais si je me souviens bien, là, on n'avait pas très bien performé. Là. Il manquait beaucoup de joueurs dans les camps pro. Puis ça va être un petit peu plus difficile.
Pour toi, c'est quoi la bonne façon de réagir quand on te renvoie à ton équipe midget après?
Ben pour moi, c'est ça. C'est retourner midget 3, c'était pas vraiment un échec. C'était vraiment la bonne façon de s'en aller là-bas. Puis se retrousser les manches puis de montrer à tout le monde que, bon, peut-être que tu n'étais pas prêt à faire l'équipe présentement, mais que tu vas l'être l'année prochaine. Puis c'était d'aller là-bas et d'avoir du succès avec les Albatros, puis travailler sur mon jeu, travailler sur les choses qu'il fallait que j'améliore pour jouer junior. Puis je pense que c'est ce que j'ai fait à ce moment-là.
Puis comment t'as su, puis à quel moment, mettons, t'as su que t'as remonté dans l'équipe pour quelques matchs?
Ben ça, c'est ça, comme me semble que c'était les deux premiers matchs, étant donné qu'il y avait plusieurs gars qui étaient partis dans les camps pro, justement, il manquait des gars. Puis par la suite, c'était dans le temps des fêtes, là, probablement à cause de blessures. Là, puis dans le midget 3, on recommençait un petit peu plus tard aussi après Noël, donc ça m'avait permis d'aller pratiquer avec le Saint-Nic.
Okay. On en revient à l'âge de 16 ans. C'est quoi qui te manquait le plus pour faire la LHMQ selon toi?
Souvent à cet âge-là, quand on retourne des gars comme ça, des fois c'est juste niveau physique, maturité physique. C'est pas facile de jouer à 16 ans dans la LHMQ. Puis il y a beaucoup de joueurs qui retournent midget 3 puis qui finalement c'est la bonne décision. Des fois, il y a des gars qui sont prêts à 16 ans aussi. Ça dépend. C'est du cas par cas. Pour ma part, c'était vraiment... c'était évident que j'avais besoin d'une saison de plus, midget 3. Même après ça, mes débuts juniors, à 17 ans, ça a été un petit peu plus long. Fait que non, pour moi, c'était évident que j'avais besoin de cette saison-là. Okay.
Par la suite, 4 saisons complètes avec l'équipe qui est encore le Saint-Nic de Rimouski, dont 2 saisons à plus d'un point par match. Comment t'es fier et comment t'as aimé ton expérience en tant que joueur dans l'organisation de l'Océanique?
Ben, j'ai absolument adoré ça. Ça a été l'Océanique, ça a toujours été une très grande organisation. Puis j'ai toujours été très bien traité. Puis évidemment, être capable de finir ça avec la Coupe du Président. Puis la dernière saison qu'on a eue, tout le monde ensemble à Rimouski, ça a été vraiment spécial.
En parlant de la Coupe du Président, j'ai pris la vidéo sur YouTube, ben, je vais te la remontrer, ça va sûrement te redonner des frissons. Claude, tu peux l'envoyer.
Pour accepter cette Coupe du Président, le capitaine de l'Océanique de Rimouski, Alexis Loiseau!
L'équipe de toute une région est championne de la Coupe du Président.
C'est quoi le feeling au moment de lever cette coupe-là?
C'était spécial, vraiment. Là, c'est, toute l'année, on avait été décrit comme favori. Je me souviens, à partir du premier match, là, on était classé premier au Canada. Donc, oui, on avait beaucoup d'attentes sur nous. La Coupe Memorial était à Québec cette année-là. Donc, Québec... avait une très bonne équipe aussi. Là. On perdait la série 2-0. On perdait la série 3-2. Même le match 6 là, s'était rendu 4-1 à un certain moment pour Québec, qui avait la chance de gagner ce match-là. Donc, ça a été très, très difficile. Ça a été une longue série. Puis, au moment de lever le trophée, là, c'est juste une année complète là, de travail. Puis, vraiment, là, c'est un super beau moment.
Te rappelles-tu encore qu'est-ce que Gilles Courteau t'avait dit? Dans l'oreille.
Non, c'est ça, c'est une bonne question. Je me souviens pas, mais il y avait tellement de bruit aussi là, à Rimouski. Là, je n'ai probablement pas compris grand-chose. Là.
Mon premier joueur, Ali Desrosiers Truchon, mon premier joueur préféré à Rimouski. Je vais toujours me souvenir quand tu as soulevé la coupe en 2015.
Non, c'est gentil.
De beaux souvenirs, ça, encore autant de frissons malgré les années. ben là, on l'a vu dans la vidéo, mais être récompensé avec le C de capitaine, quel honneur c'était pour toi, étant une équipe avec laquelle tu as joué 4 bonnes saisons complètes?
Oui, c'était vraiment un bel honneur. Tu sais, pour moi, l'Océanique, c'était l'équipe de ma région. J'avais joué mon hockey Pee-wee Bantam au Bas-Saint-Laurent. Après ça, midget à Rivière-du-Loup. Donc, j'avais tout le temps été un fan de l'Océanique, bien évidemment. Là. J'avais été à beaucoup de matchs étant plus jeune. Donc, c'est sûr que pour moi, être nommé capitaine à la fin de dans ma quatrième saison avec l'Océanique, c'était un sentiment rempli de fierté. Puis, c'est ça, c'est, je veux dire, je pense qu'on avait beaucoup de bons leaders dans cette équipe-là. Puis, ensemble, je pense qu'on a fait une belle job.
D'accord.
Parfait. Après ça, tu as commencé le niveau pro alternant HL East Coast League. C'est quoi qui était le. HL, c'est quand même considéré une très bonne ligne.
Ouais, ça a été un petit peu plus compliqué. Là. C'est mes premières années pro. Là, c'est... Puis, j'ai pas resté longtemps non plus aux États-Unis. Là. J'ai fait le saut rapidement en Europe. Là, mais c'est certain que la Ligue américaine, c'est un très bon niveau. Puis, j'étais peut-être. J'avais peut-être besoin d'une coupe de saison avant de réussir à m'établir, je pense, à ce niveau-là. Puis finalement, j'avais pris la décision de partir en Europe. Puis c'est une décision que je vis très bien avec. Là. J'ai eu beaucoup de. J'ai eu des belles saisons en Europe, puis j'ai vraiment eu du bon temps aussi. Donc, c'est ça. C'était un petit peu plus compliqué, là, l'adaptation au niveau professionnel après ma dernière saison à Rimouski, où que j'avais été très, très haut. Puis après ça, à retomber. Parce que là, il était plus dur à rester dans l'alignement, que ce soit dans la Ligue américaine. Dans East Coast, j'avais un petit peu plus de temps de glace, mais c'est pas nécessairement la place idéale là, pour je dirais pas pour progresser, mais c'est sûr que pour moi, c'était pas vraiment une option de rester 3-4 ans dans East Coast. Donc, c'est ça, j'avais pris la décision de partir en Europe.
Ben, ouais, là, tu en as parlé un peu, mais ensuite d'alterner entre AHL et East Coast League, l'hockey européen, d'après Elite Prospect, c'était 4 pays différents. Toi, tantôt, tu avais dit 3.
Ouais, ben, en fait, c'est ça. La dernière année, je suis parti, j'étais allé en Angleterre, puis j'ai joué 2-3 matchs, là, puis c'est là que j'avais pris la décision de prendre ma retraite. Donc. Okay. C'est ça, je la comptais pas comme une saison complète.
OK, ben dans le fond, on va compter ça en 3 années, 3 pays différents. Est-ce que tu aurais préféré peut-être plus de constance à une seule place?
Oui, peut-être. En même temps, j'allais là-bas un peu pour l'expérience aussi. J'ai aimé le fait de voir d'autres pays, d'autres façons de vivre un peu. Puis j'étais là-bas avec ma conjointe aussi, donc ça nous a permis de visiter plusieurs places, puis en même temps, voir différents styles de hockey. Je pense que ma première année en Allemagne, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'étais avec juste des Allemands, il n'y avait pas de Canadiens, il n'y avait pas d'Américains, donc des fois, c'était un petit peu plus dur de s'intégrer ou de vraiment faire partie de l'équipe. Mais après ça, au Danemark, puis en Slovaquie, là, j'ai vraiment eu du bon temps, puis c'est des places là, que j'ai bien appréciées.
Tu parles de hockey différent, mais est-ce qu'il y a une de ces ligues-là, un de ces pays-là, que le hockey était vraiment meilleur que les autres?
Ça se ressemblait, les 3 ligues que j'ai faites, honnêtement, là, c'était assez semblable. Peut-être la Slovaquie, je te dirais que c'était... le meilleur des 3, là, mais pas beaucoup.
Okay. J'ai vu qu'en 2015-2016, Leon Draisaitl et Darren Helders ont joué avec Bakersfield. T'as joué. T'as-tu joué avec eux autres? T'as-tu eu le temps des...
Non, c'est ça, je n'ai pas joué avec eux autres. Je les ai... Mon premier camp d'entraînement là, avec les Oilers, les deux étaient là. Connor McDavid aussi, c'était sa première année avec les Oilers, donc... Eux autres, je les avais côtoyés un petit peu au camp des recrues pour au camp d'entraînement, mais sinon, je n'ai pas joué avec ni un ni l'autre.
OK. Puis, tu avais comme assistant coach un Québécois, Jean-François Houle, ça doit avoir été un petit peu les quelques games que tu avais joué là.
Ouais, c'est ça. Lui, il était assistant coach, puis il était tombé entraîneur-chef en cours de l'année, là, en remplacement. Là. Fait que c'est ça. Non, je ne l'avais pas côtoyé longtemps là, parce que j'avais passé la majeure partie de cette année-là dans la East Coast avec Éric Veilleux, qui est maintenant à Québec. Mais, ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait prendre une grosse décision telle que la retraite à cet âge-là?
Ben, c'est quelque chose, honnêtement, que je pensais depuis déjà un petit peu de temps. Ce n'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Là. comme je t'ai dit tantôt, après mon stage junior, je pense que ça a été un petit peu plus dur de vraiment retrouver la motivation tout le temps, chaque jour, que ça prend, je pense, pour avoir du succès au hockey. Puis à partir du moment où je suis allé en Europe, j'ai peut-être ajouté un petit peu d'années à ma carrière, comme on peut dire, mais en bout de ligne, je savais que je ferais pas ça pendant 10, 15, 20 ans. Là. Je voulais. Le coaching m'intéressait énormément aussi. Puis j'avais envie de revenir un peu au Québec aussi.
OK. Là, on va parler de ton deuxième parcours avec l'Océanix, c'est-à-dire en tant que coach. Comment tu as aimé ces cinq années-là? Deux années en coach de développement et trois en assistant coach, c'est bien ça?
Oui, en fait, c'est quand je suis revenu de l'Europe la première année, c'était au mois de octobre ou novembre, si je me trompe pas. Là. Puis presque immédiatement, j'ai commencé comme responsable de développement des joueurs. Puis ça, c'était quelque chose que je faisais. J'avais pas besoin d'être à Rimouski à temps plein. Là. Ça a été vrai, j'étais à Québec. Puis je faisais beaucoup de recrutement. Puis j'allais voir les joueurs aussi qui nous appartenaient. Fait que ça, j'ai fait ça pour le reste de l'année. Puis dès l'année suivante, ben là, je suis parti à Rimouski. Je suis déménagé à Rimouski à temps plein. Puis je suis devenu assistant coach. Là. Fait que okay. J'ai fait ça pour 4 ans, ouais.
OK.
Comme coach du développement, t'as sûrement coaché Alexis Lafrenière un peu. T'as-tu un peu contact avec lui?
Non, c'est ça. Non. Je m'occupais vraiment des jeunes qui étaient dans le système. Puis c'était l'année tout de suite après là, Alexis là, que moi j'ai commencé avec le Saint-Louis.
OK.
Ouais.
Okay.
La saison prochaine, pardon, tu commences le nouveau défi d'entraîneur-chef à la barre de l'Olympique de Gatineau. Comment tu as reçu l'offre et quel effet ça te fait de quitter l'Océanique de Rimouski?
J'ai reçu l'offre, en fait, là, ça a été quelques semaines là, après notre élimination des séries. Serge avait demandé la permission à Danny pour me parler, comme c'est la coutume. Là. Quand tu veux parler à quelqu'un qui travaille pour une autre équipe, il faut que tu demandes la permission. Donc, à ce moment-là, j'avais été rencontrer Serge, puis on se connaît déjà assez bien, moi puis Serge. Donc, ça avait plus été vraiment parler de hockey, parler de notre philosophie. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'il ne savait pas sur comment que j'étais puis quel genre de coach que je suis. Donc, ça n'a pas été trop compliqué, ça s'est bien fait. Puis, c'est ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment excité de ce défi-là. Puis, je pense que c'est une belle opportunité, c'est un bon fit. Puis, j'ai l'impression qu'on va avoir une bonne équipe aussi l'année prochaine. Donc, c'est excitant.
Parfait.
On a un commentaire de Mathieu Duguay, notre chroniqueur pour les Olympiques de Gatineau. Quel est ton style d'entraîneur?
Mon style d'entraîneur, je pense que je suis un gars qui va être près de ses joueurs. Puis c'est probablement la phrase qu'on entend le plus dernièrement. Mais pour moi, être près de ses joueurs, c'est oui, de créer des vraies relations, c'est des relations honnêtes. C'est pas nécessairement vouloir être aimé à tout prix. Là. C'est vraiment juste travailler dans le sens de l'équipe, puis travailler pour aider les jeunes individuellement. Des fois, il y en a qui seront probablement pas contents, mais bon, je pense que tout ça passe par l'honnêteté, puis tu sais, je suis un gars qui adore la game, puis en bout de ligne, c'est ce que je demande des joueurs aussi, je veux qu'ils viennent à l'aréna avec le goût de s'améliorer, le goût de travailler, le goût d'aider l'équipe à gagner, puis c'est ça va ressembler à ça, je pense que je vais être très, très fair, mais très demandant parce que, bien entendu, là, mes objectifs, puis les objectifs de l'organisation, puis les objectifs de... En fait, tous les partisans à Gatineau ont tellement été gâtés à travers les années qu'ils s'attendent à avoir des équipes qui réussissent. Donc, c'est certain que je vais aller dans ce sens-là.
Y a-t-il un entraîneur qui t'a coaché que tu veux prendre un peu comme son style ou tu veux faire ton propre style?
Ben, sans dire que je veux prendre son style, tu sais, c'est sûr que pour moi, Serge, ça a été un modèle sur bien des choses. Ça a été un mentor. Puis, il y a beaucoup de choses que je m'inspire de Serge. Il y a beaucoup de choses aussi que je vais faire par moi-même, puis ça va être différent. Mais c'est sûr que pour moi, tu sais, les valeurs d'honnêteté puis de travail, ça va toujours être primordial dans le succès d'une équipe.
Okay. Ton premier repêchage a eu lieu il n'y a pas trop longtemps, 3 choix de première ronde. Comment s'est passé ton premier repêchage comme coach? Puis c'est quoi que tu as à nous dire sur ces 3 jeunes hommes, 3 jeunes attaquants?
Ben, ça s'est bien passé. Honnêtement, le repêchage, là, c'est un travail de toute une saison qui est fait par nos recruteurs, puis par le directeur général, puis ses adjoints. Donc, c'est sûr que moi, je vais là-bas, puis oui, j'ai eu quelques visionnements sur la plupart des premiers choix qu'on a eus, mais j'arrive pas là avec la prétention de connaître tous ces joueurs-là, puis c'est pas vraiment ma place de prendre parole sur tous les joueurs. Là. Oui, j'ai certaines choses à dire, puis j'ai rencontré une couple de joueurs, puis j'en ai vu plusieurs, mais en bout de ligne, je fais confiance aux gens qui sont en place, puis on sait quel genre de hockey qu'on veut jouer avec les Olympiques, puis on repêche en ce sens-là.
Et les 3 jeunes attaquants, t'es avais-tu vu un peu en vidéo, ou c'était-tu ceux qui étaient spotés comme dans votre liste comme priorité?
Ouais, ouais, c'est sûr. Dubé, c'est un gars qui joue 200 pieds, très talentueux, un très bon lancer, patine très bien. Il a des atouts offensifs indéniables. Mm-hmm. Par la suite, on a repêché le gros cir, comme on l'appelle, un gros bonhomme de Magog qui a eu de très, très bonnes séries, que je l'ai regardé jouer surtout à la Coupe TELUS. Puis c'est un gars qui est extrêmement responsable. Je pense qu'il y a une certaine touche offensive aussi qu'il n'a pas nécessairement développé encore, mais c'est un gars très intelligent. C'est un gars qui vraiment là, va être très important pour notre équipe dans le futur. Puis finalement, le Noah Florent, là, qu'on a repêché de CSF, qui lui, ben, c'est un gars qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points cette année, le midget 3A. C'est un gars très, très intelligent offensivement. Je pense pas qu'il y ait un joueur avec un IQ comme le sien dans le repêchage cette année. C'est un gars qui n'a pas peur de jouer à l'intérieur non plus, malgré sa petite stature. Donc, c'est vraiment un repêchage très intéressant pour nous autres.
Moi, je veux dire de quoi? La dernière fois que l'Olympique a eu plusieurs choix comme ça de première ronde, ça a fait mal. C'était Warren, Savoie, puis Luneau. Ça a fait mal en estive. L'avenir est bel à Gatineau.
À Togo aussi, Bourreau, il y avait 4 choix la première ronde.
Oh, ouais.
Ouais. C'est bon, on va passer tout de suite à la mise en échec.
Donc, la mise en échec, c'est là qu'on te demande est-ce qu'il y a des anecdotes drôles de hockey, des superstitions peut-être que tu avais ou que tu as encore? Ça se peut, une superstition de coach?
Je suis pas vraiment un gars de superstition. Honnêtement, là, j'essaie d'enlever ça le plus possible. J'essaie d'enlever ça le plus possible des joueurs aussi. Quand que ça arrive, je pense que c'est correct d'en avoir un petit peu, là, mais ça doit pas être ça qui mène ta préparation, mais comme anecdote, on a parlé un petit peu de l'Europe tantôt. Comme joueur, quand je suis arrivé là-bas, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes. Je me souviens, une de mes premières journées au Danemark, là, où c'est que, il y avait comme une tradition, je ne sais pas si c'était une tradition dans l'équipe ou vraiment dans la ville où c'est que j'étais, mais les gars qui avaient 30 ans et qui n'étaient pas mariés encore, il fallait qu'ils aillent en avant de l'aréna en culotte courte, puis là, tout le monde qui passait leur lançait du sirop, de la cannelle, des choses comme ça, juste pour... Je sais pas, j'imagine que le mariage est un petit peu plus fréquent là-bas qu'ici, là, mais c'est ça. Pendant peut-être 30-45 minutes, là, les gars se faisaient lancer plein d'affaires, là. Puis il y en avait deux, là. Il y en avait deux de 30 ans qui n'étaient pas mariés, donc c'est ça. C'était un accueil un peu un peu spécial, mais bon, moi, j'étais correct. J'avais 24 ans, puis je me suis marié une couple d'années après aussi, donc j'avais pas besoin de faire ça.
Donc, et là, tu dis, waouh, je suis dans un autre monde. Hein?
Exact, c'est un petit peu différent de ce qu'on est habitué.
C'est pas à Rimouski qu'on aurait fait ça.
Non.
Je pense pas. Après ça, vas-y.
Ton moment de bienvenue dans la Ligue, un moment qui te rappelle dans la GMQ, tu t'es dit waouh, là je suis dans la GMQ ou une gaffe que tu as faite sur tes premiers chiffres.
Ouais, ça c'est assez facile. Là. On a parlé tantôt là, mes premiers matchs à l'Weston. Le premier match de tout, si je me souviens bien, on avait perdu quelque chose comme 6-7-1. Puis j'avais été comme je pense -4 là, dans le match. Là. Ça a été un match assez difficile, puis un beau bienvenue dans la Ligue.
Il y en a des prix. La tendresse contre Radulov, il était -7 qu'il disait, je pense, dans sur son podcast.
Non, c'est pas si peu.
C'est bon, fait qu'on va passer tout de suite au tir de barrage.
Fait que tir de barrage, on a une couple de questions à Raphaël pour toi. Un entraîneur que tu prendras en exemple, on te l'a un petit peu demandé tantôt, mais mettons, pas obligé d'être un entraîneur qui t'a entraîné toi.
C'est sûr que présentement, là, on regarde beaucoup Paul Maurice avec les Panthers. C'est un gars brillant, c'est un gars qui, je pense, qui comprend bien ses joueurs, comprend bien son équipe, donc c'est certainement un gars que j'aime suivre. Okay.
Ton joueur préféré à NHL, ça peut être avant ou actuel?
Mon joueur préféré a toujours été Joe Sakic. Ça fait une couple d'années déjà qu'il n'est plus là, mais bon, toujours intéressant de le suivre pareil là, maintenant dans ses nouvelles fonctions.
Ton équipe préférée?
Canadien de Montréal.
C'est bon. Que fais-tu pour décrocher du hockey?
Qu'est-ce que je fais pour décrocher du hockey? Présentement... mon été est assez occupé. Là. J'ai deux petites filles d'un an et 3 ans, donc j'essaie de passer le plus de temps possible avec eux autres là, avant de partir pour le camp d'entraînement. Sinon, je suis un grand fan de golf, de tennis, du sport en fait.
Quel sport Alexis Loiseau pourrait entraîner si ce n'était pas du hockey qu'il faisait?
Je dirais le tennis.
Un numéro que tu n'aimerais pas avoir en tant que joueur?
Un numéro que j'aimerais pas en tant que joueur? Une bonne question, ça. Pas facile à répondre. Je dirais que si quelqu'un voulait mettre le numéro 66 ou le numéro 87 ou 99 dans mon équipe, c'est sûr que ça serait non.
Ton moment hockey le plus mémorable?
Assurément, la coupe du Président en 2015.
Okay. Justement, tu as parlé de golf tantôt. Un foursome de golf de rêve pour toi, ce serait avec qui?
Je vais y aller avec Joe Sakic, ça c'est certain, parce qu'on en a parlé tantôt. Ouais. Ensuite, je dirais... mon joueur de tennis préféré, Novak Djokovic. Mm-hmm. Puis avec ça, je vais y aller avec. Bon, on va rester concept, on va y aller avec Paul Maurice.
C'est bon. Que dirais-tu à Alexis de 16 ans si tu aurais un conseil à lui dire?
Un conseil. Tu sais, pour moi. Maintenant, tu sais, j'ai fait le saut du côté entraîneur, puis je côtoie justement des jeunes de 16 à 20 ans que j'étais dans leurs souliers il n'y a pas si longtemps. Puis des fois, tu as tendance à vouloir regarder trop loin. Puis la vérité, c'est que puis c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, là, mais toute chose que tu veux réussir puis que tu vas avoir du succès, c'est juste en faisant les choses avec constance jour après jour. Puis ça n'a pas besoin d'être une journée où ce que tu en fais pendant 5 heures, mais si tu le fais jour après jour comme il faut, puis que tu te concentres vraiment sur ce que tu as à faire, tu vas avoir du succès.
Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite?
Ben, du succès avec les Olympiques. Je pense que, comme je l'ai parlé tantôt, là, je pense qu'on on va avoir une très belle saison l'année prochaine. Puis, j'ai déjà commencé là, à parler avec plusieurs joueurs. Puis, je suis excité que ça commence. Je pense qu'on j'ai rencontré le staff, j'ai rencontré beaucoup de monde de l'organisation aussi. Là. C'est vraiment un bon fit. Puis, je suis confiant là, pour les prochaines saisons.
C'est certain qu'on vous le souhaite.
C'est sûr qu'on te le souhaite. Merci beaucoup, Alexis, d'être venu sur le podcast. Bon 30 minutes avec toi.
Merci beaucoup à vous autres.
Ça fait plaisir. Bonne saison.
Salut, merci.
Salut. Merci beaucoup, Alexis, encore. Fait que là, on va y aller pour le dernier segment du UF de la saison, pour notre dernier podcast. Merci, je suis donné. Let's go, Claude, tu peux rentrer.
C'est la poche. Fait que là, je vois quand il est arrivé, là, il a mis son stick en dessous.
Ben, il a mis son bâton, il a pris ce gars-là. Il l'avait, la poche.
Salut, UF.
Salut. Je voulais faire semblant de bouder, mais écoute, c'est pas trop dans mon, c'est pas trop dans mes cordes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans le monde du sport cette semaine? Ben, de bon puis de moins bon. On va commencer, avec le moins bon. Deux Québécois, donc, qui se sont fait congédier de leur poste d'handball. Guy Boucher, dans son cas, lui, c'est entraîneur adjoint avec les Maple Leafs de Toronto. Bon, congédié, il est-tu parti? Ça, c'est comme pas clair. C'est sûr que être à place à Guy Boucher, qui est un ancien entraîneur-chef, le coach congédié, Sheldon Keefe, qui part, il aurait peut-être espéré avoir le poste, mais finalement, c'est Greg Berube qui a pris sa place. Et puis, ben aujourd'hui, on vient d'apprendre Pascal Vincent, donc qui a perdu son poste avec les Blue Jackets, donc un nouveau directeur général qui vient de rentrer à Columbus, qui va choisir son gars. Finalement, il va choisir celui qu'il veut. Mathieu, qui vient de donner un commentaire, là, je vais avoir un bout de musique de Nicolas à créer. Eh, ouais, on l'a pas mis sur le podcast, Mathieu. Écoute, on garde la surprise pour la saison prochaine. Sinon, écoute, bon, toute l'année, là, j'ai parlé de Connor McDavid, qui a fait 100 passes pendant la saison. C'est juste le quatrième. Nikita Kucherov qui l'a fait aussi. Donc, 5 joueurs de l'histoire de la Ligue nationale à avoir réussi l'exploit. Et là, Mr. McDavid, qu'on voit ici en compagnie de Wayne Gretzky, donc, qui a battu un record pour le plus de passes en une saison, en série, en fait, là, dans une seule année. Bon, la différence, Gretzky l'a fait en 19 matchs, McDavid l'a fait en 22, mais c'est pas grave, écoute, quand tu dis que tu t'as battu la merveille à un petit record, c'est tout qu'un exploit. Les Alouettes, on parle-tu des Alouettes un peu? Écoute, les Alouettes qui ont commencé l'année en force, 2 victoires, 0 défaites, donc la dernière victoire qui était jeudi, qui vient de passer, 23-20 contre les Elks d'Edmonton. Le premier match local, donc c'est jeudi, ici le 20 juin, levée de la bannière, déjà plus de 20 000 billets vendus. Le stade McGill va être plein à craquer, ça va être malade. Et puis, écoute, pour finir un peu là, le résumé de la semaine dans le monde du sport, le CF Montréal qui a fait match nul 0-0. Match nul 0-0, ça doit être plate en crêle-vert. Peut-être, sauf que c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le Real Salt Lake City, qui, eux autres, sont les premiers de la division Ouest. Donc, le CF Montréal là, qui n'a pas perdu à leurs 4 derniers matchs. Pas encore en série. Il reste encore pas mal de matchs avant la série, vous allez dire. Mais écoute, ça approche. Ils sont juste à une victoire en arrière. Un autre commentaire de Mathieu. Ah, Mathieu, qui trouve ça drôle, c'est tout. OK. Moi aussi, Mathieu, je te trouve bien, bien drôle. Allez, les boys, c'est la dernière. Fait que j'ai pas fait de segment You Can Do That parce que c'est sûr, ça me tentait pas d'être négatif à soir, ça me tentait juste d'être positif, puis de vous féliciter parce que vous avez fait une belle job, Zach, en tout cas, vous avez fait une belle job. C'est une joke, Sébastien, toi aussi, on t'aime. Sauf quand t'écris plein de fautes, mais ça, c'est notre sport. C'est ça. Fait que je vais juste vous dire félicitations, les boys, pour votre troisième saison. J'ai déjà hâte à la quatrième. Fait que sur ça, moi, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bon été à tout le monde. On se retrouve en septembre, en août.
Et Claude, as-tu quoi de prévu cet été? Je pense que tu vas aller à la classique. On a parlé un peu, l'Ozon Roy.
Oui, ben oui, c'est sûr qu'écoute, c'est sûr que je vais aller voir ça. C'est le 13 juillet, si ma mémoire est bonne. Fait que c'est sûr que oui, je vais aller voir ça. Oui, écoute, je ne serai pas là comme participant, mais je vais être là comme spectateur.
C'est bon. Fait que merci et bon été, Claude.
Bon été.
Merci. Merci pour ce beau mot. Merci aussi à toute l'équipe de Sur la bande, parce que cette année, ça a été notre plus grosse année, on va dire comme ça. C'était le gros projet LHGMQ. On n'a pas une personne par équipe parce qu'il y a des équipes que c'est moins évident. Mais écoutez, on essaye. On a bien fait ça. Tout le monde a bien fait ça. Bel job, Seb. Tu trouves t'as quasiment la job la plus dure de trouver tout le temps du monde à chaque semaine. Pour ça, bien fier de...
La saison, là, c'était assez. Je te dirais, je commençais à capoter. Là. C'était pas facile. Mais je voulais dire que cette saison... On a été différemment. T'sais, on a reçu une famille de pension, un joueur para-hockey, on a reçu un ancien gagnant de la Coupe Stanley, on a reçu un thérapeute du sport qui est maintenant avec une équipe, puis un coach, puis GM, la GMHL. Fait que c'est assez une saison incroyable.
J'ai gagné la Coupe avec les Canadiens. Pas n'importe qui.
J'ai vu dans mes souvenirs, il y a 2 ans, jour pour jour, on finissait notre saison 1 avec Justin Robida à la même date. Puis on est extrêmement fiers d'annoncer qu'on est de retour pour la saison 4. Ouais, nous serons de retour de la saison 4. Jules va être en plateforme aussi. On a des meetings cet été, mais tout va être sur place pour la saison 4 à distance parce que Zach qui déménage. On va tout faire.
On est à distance là pareil.
Je voulais dire aussi, je voulais souhaiter bonne chance à des joueurs.
Gars de Slapshot, effectivement.
Pas, j'oublie. Je voulais aussi souhaiter bonne chance à des joueurs qu'on a reçus pour le draft NHL qui se passe dans moins de 2 semaines, je ne me trompe pas. Fait que Thomas Lavoie, Félix Lacerte, Alexandre Guy, Alexis Bernier, Lou Lévesque, Ada Fortier-Gendron et Isaac Pelletier. Bonne chance, les boys. Ça va être votre moment. J'espère pour vous que vous allez être pêchés ou bien juste recevoir une invitation. Sinon, c'est partie remise pour la saison prochaine.
Ouais.
Fait que c'est pas mal ça. Toi, Zach, as-tu des projets pour déménager cet été un peu?
Bientôt, je m'en vais voir les Blue Jays et l'Alouette dans la même fin de semaine.
OK. C'est bon. Fait que c'est ça là-dessus. Je vous souhaite une belle été puis on se dit à la prochaine. Fond,
de ma part, du gros hockey de Trois-Rivières l'année prochaine avec probablement l'aide de Jérémy. Peut-être. Peut-être des cataractes si j'ai le temps, je vais le dire comme ça. Sinon, il y a le hockey universitaire de l'UQTR. Il y a les Lions peut-être avec Sylvain. Il y a du hockey à aller voir là-bas.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on se dit pas à la prochaine, mais à la saison prochaine.
Yes. Salut tout le monde. Merci encore.